Bonsoir, c'est Jeudi Noir qui reprend pour une émission comment dire, un peu spéciale, puisque cette fois-ci on va faire une émission hommage. Je pense qu'on l'a jamais fait.
Non. Non.
Et c'est une émission qui sera consacrée à quelqu'un qu'on a invité 4 fois.
Ouais.
Sur nos ondes, qui s'appelait Jacques Bouvresse, qui était philosophe et professeur honoraire au Collège de France et qui était aussi un ami. Et donc, on s'est dit que, voilà, on allait un petit peu parler de ses bouquins, parler de son œuvre.
Il est mort il y a maintenant un petit mois. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup intellectuellement. C'est quelqu'un à qui Jeudi Noir doit beaucoup, parce que en fait, aussi bien du point de vue de ses positions, de ses engagements philosophiques, que en fait de ses écrits, et puis aussi des auteurs qu'il a défriché, qui nous a aidé aussi à découvrir et à lire. Il était important pour nous, et y compris pour les thématiques et pour la manière dont on les a développées ici sur cette antenne. Donc effectivement, on trouvait important de lui rendre hommage. Alors peut-être que d'ailleurs on sera amené à en faire d'autres, hein, des émissions sur autour de Jacques Bouvresse et de son œuvre. Il y a encore des textes qui sont à apparaître dans les prochains mois, des inédits. Bon, alors il y a des émissions qu'on regrette un peu aussi de pas avoir faites, puisque en fait c'était quelqu'un qui était assez difficile à avoir des visus tout à fait charmants et courtois et voilà parfaitement amical quand on était il était venu ici avec il nous a fait l'amitié de venir plusieurs fois. Mais il y a aussi des émissions que moi je regrette un peu, hein, notamment sur ces derniers livres sur Nietzsche où finalement on l'a jamais fait là.
Nietzsche critique de Foucault et voilà. Il avait insisté, il nous disait ah mais quand est-ce que je pourrais venir et puis bon il avait jamais le temps.
Voilà. Donc malheureusement celle-là on n'aura pas l'occasion de la faire. Là en fait c'est un peu alors le défi un peu on est un peu embarrassé par déjà bon pas c'est pas dans nos habitudes de faire des émissions comme ça un peu de ce type là mais là il le mérite amplement j'ai envie de dire c'est voilà et après c'est une œuvre qui est colossale en fait l'œuvre de Bouvresse
foisonnante
c'est quelqu'un qui commence à publier au début des années 70 sur ses premiers textes, beaucoup dans les années 80, il a écrit peut-être une cinquantaine d'ouvrages, des dizaines d'articles sur des sujets extrêmement divers et variés, donc c'est très très difficile de faire un résumé de son œuvre et même donner un panorama des différents thèmes auteurs qu'il a pu aborder. Il s'est intéressé aux sciences, il s'est intéressé au langage, il s'est intéressé à la politique, il s'est intéressé à la littérature, il s'est intéressé à la musique,
à la perception,
au journalisme,
à la religion,
à la sociologie. Donc c'est un des très grands philosophes de la fin français de la fin du 20e siècle. On a fait un peu une sélection nous ce soir parce que sur des thèmes dont on avait un peu envie de parler pour présenter surtout à destination des auditeurs qui sont pas familiers de son œuvre, hein, qui est pas très très médiatisé, qui est pas très mode quoi, voilà, très donc ce qui est susceptible voilà de peut-être de donner envie aux auditeurs de le découvrir. Donc on a pensé qu'on va commencer par vous parler un petit peu de son positionnement en tant que philosophe dans la philosophie française à la fin des années 70 et dans les années 80-90. Qu'est-ce qui fait un petit peu l'originalité de ce positionnement-là, non pas pour faire de l'histoire des idées ou pour faire les anciens combattants ou le ramener à des débats, mais parce que c'est tout à fait significatif du genre de philosophie qu'il a voulu pratiquer, de la philosophie qu'il a critiquée beaucoup, qui malheureusement la philosophie qu'il a critiquée se porte très très bien aujourd'hui, c'est un peu lui qui a aussi acté l'acte de naissance de la philosophie médiatique qu'il a bombardé pendant toute sa vie, qu'il a moqué, qu'il a roulé effectivement dans la farine pendant des années. Malheureusement, ça a pas suffi pour l'enterrer, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens très très puissants qui ont intérêt à ce que cette philosophie ou cette parodie de philosophie existe, et puis qu'elle couvre la voix des gens qui ont des choses à dire. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose d'important pour lui. La manière dont et puis pour nous aujourd'hui, la manière de s'y positionner par rapport aux philosophes français. Peut-être les plus connus et les plus médiatisés à l'époque. Donc on va commencer par parler de ça. Après on parlera peut-être un petit peu dans une deuxième partie d'émission d'une particularité chez lui qui est en fait l'influence qu'ont eu chez lui la philosophie autrichienne et la philosophie allemande moderne, notamment tous les courants philosophiques allemands sous la République de Weimar dans les années 30, qui sont relativement peu connus en France et qu'il a été un des premiers à mettre en lumière avec tout un tas de choses très intéressantes d'après nous, y compris pour comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, hein. Donc ça, on parlera ça dans une deuxième partie. Dans une troisième partie, un petit peu peut-être de ces influences plus anglo-saxonnes du côté d'auteurs comme Orwell ou comme Russell, dont on a déjà parlé ici, et la manière dont justement le type de lecture qu'on peut en faire d'un point de vue libertaire comme le nôtre, dirons-nous, et qu'est-ce qui rend ces lectures originales par rapport à des auteurs auxquels on est plus habitué dans la tradition libertaire et dont il s'est lui toujours méfié, dont il nous a appris aussi à nous méfier. Voilà. Donc peut-être sur une première partie, donc Michel, toi tu voulais commencer par parler d'un article un peu, alors qui a été publié beaucoup chez Agon, c'est dans les essais dans le premier ou deuxième tome des essais.
Deuxième
tome des essais. donc chez aux éditions Agon, ouais. Un article qui s'appelle Pourquoi je suis si peu français, et donc dans lequel il revenait, alors je sais pas de quand est l'article, je sais pas si tu te rappelles, c'est un article qui date de...
C'est un article un peu ancien, attends, ouais. Je vais trouver ça, mais c'est un article qui avait été publié en 1982.
82, voilà.
En anglais, dans ouais. À Cambridge, aux presses de l'université de Cambridge. Et qui était resté longtemps inédit. Et ce qui m'avait intéressé, c'était finalement pourquoi est-ce que Jacques Bouvresse a eu une influence. Alors, c'est pas un philosophe marginal comme on a essayé de le dire, non. Parce que c'est quelqu'un qui en fait
qui a fait une carrière universitaire,
prestigieuse.
Il a voilà. été élu au Collège de France proposition de Pierre Bourdieu. Donc c'est une reconnaissance universitaire en tout cas.
C'est pas du tout un marginal. En revanche, bon, il a rarement siégé dans les jurys, dans les grands trucs de reconnaissance de l'université française, type jury d'agrégation ou jury de normal sup, ou genre de trucs. C'est pas des positions qu'il a occupées. Mais par contre, donc c'est pas du tout un marginal. C'est quelqu'un qui est un peu, qui occupe des places assez prestigieuses dans le système universitaire français. Donc ça, il faut pas le dire. En revanche, c'est quelqu'un qui, en termes de positionnement philosophique, a été plutôt parmi les nombreux groupes de minoritaires. Il y a plusieurs groupes de minoritaires, parfois ils se détestent les uns les autres. Les Heideggeriens étaient assez minoritaires, d'une certaine manière. Les dominants, c'était plutôt les Husserliens et les marxistes, pendant très très longtemps. Et puis vous aviez un autre courant un peu minoritaire, qui allait être un courant justement représenté par Bouvresse, pas que lui, mais...
Essentiellement lui, quand même.
Mais essentiellement lui, surtout dans les années 60-70. Et qui va, en fait, sorte introduire des références philosophiques qui sont, à l'époque, très très mal vues. Mais c'est quelqu'un aussi qui va avoir, de ce fait, du fait des références philosophiques qu'il a, un positionnement très très différent. Et là, je voudrais vous lire deux, trois phrases. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'on en lit du Bouvresse? Parce que ces phrases, en général, sont longues et pleines d'incises, parce que il aimait bien toujours préciser ce qu'il disait et introduire des doutes et des trucs de modération, quelque chose que j'ai pas souvent lu à son sujet, mais qui moi me semble intéressant, c'est que c'est un auteur qui, dans la façon d'écrire, se rapproche, à mon avis, assez de Montaigne. Montaigne écrit les essais, et dans les essais, vous avez souvent des citations que Montaigne aime, et ensuite un commentaire de Montaigne, et après Montaigne dérive, souvent ne parle pas forcément du thème qu'il veut aborder, recite quelqu'un qu'il aime bien, le recommande, redérive, et finit par aboutir à un point qu'il n'a pas du tout prévu. Dans les textes de Bouvresse, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté essayiste, c'est pas quelqu'un qui écrit des traités philosophiques avec un grand 1, grand 2, grand 3 conclusion. Une amie qui l'a édité me disait récemment que une des plus grosses difficultés qu'elle avait avec lui, c'était d'obtenir une conclusion. En général, quand elle arrivait à obtenir une conclusion, c'était un nouveau chapitre qui ouvrait sur un livre de plus. Ouais, c'était pas quelqu'un qui concluait. Et donc là, pourquoi je suis si peu français, il va poser en quelque sorte deux trois choses à son sujet qui me semblaient intéressantes à rappeler. Et il dit voilà, en gros, je suis embêté d'écrire cet article, qui est censé représenter la philosophie française. Et il dit voilà, premièrement, je ne peux en aucun cas être considéré comme un philosophe français contemporain représentatif ou influent. Deuxièmement, je ne revendique et n'ai jamais revendiqué aucune originalité véritable dans le traitement des questions philosophiques auxquelles je me suis intéressé. Ça, c'est à mon avis un point très important. C'est que dans la geste française de la philosophie, vous avez à chaque fois le grand philosophe qui arrive et qui dit « je suis original, ce que je pense est inouï, jamais on a pensé ça avant moi ».
Concrètement, effectivement, c'est la manière dont, en général, on peut obtenir un succès dans le champ philosophique français. Foucault, voilà, je vais faire autre chose que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en introduisant. Je suis même plus un philosophe. Je fais à la fois de l'histoire et de la philosophie, de l'archéologie, de la généalogie. Alors bien sûr, je suis philosophe, mais je suis bien plus que ça.
Derrida,
Deleuze, disons voilà, la philosophie, c'est de la création de concepts. Mmh. Voilà. Donc c'est une manière, une approche souvent esthétisante, mais en tout cas toujours sur une posture de rupture. Le grand philosophe, c'est celui qui est capable de faire rupture, d'introduire de nouvelles manières de penser, avec l'idée d'une espèce de conception assez héroïque et révolutionnaire de la philosophie. Comme si la philosophie avait ce pouvoir-là, par les mots, par l'innovation des concepts, de changer directement les choses. Tu changes les mots, tu changes les concepts, et donc tu changes les choses. Et la position de Jacques Bouvresse par rapport à ça, c'était de se dire que cette position-là, justement, ça consiste précisément à se payer de mots, oui. et qu'en fait, la philosophie est tout autre chose que ça. Hein.
Et là, il cite, alors, évidemment, il y a une note, une citation. Donc, lorsque j'ai une idée, écrit Victor Klemperer, bon, on pourrait en parler de Klemperer, mais bon, je n'en suis jamais fier au-delà d'un jour, ensuite je désenfle, car ensuite, destin de philologue, je prends conscience de sa provenance. Commentaire de Jacques Bouvresse. Bien que je ne sois pas philologue, et pas non plus historien de la philosophie, je dois avouer que, pour la même raison, j'ai rarement eu l'occasion d'être fier pendant plus d'un jour d'une idée que j'ai eue. Et donc là, c'est typique de la manière de Jacques Bouvresse, c'est-à-dire c'est une espèce de façon de dire je ne suis pas un héros de la philosophie, la plupart des idées que j'ai, en fait, c'est des idées que d'autres ont eues, en général, je vais les lire, je les cite et je les commente.
T'as ça et t'as l'idée que de toute façon, la philosophie n'est pas une discipline pour les héros.
Oui.
C'est-à-dire que t'as une conception qui n'est anti-héroïque du philosophe. En tant que tel, le philosophe n'est pas un héros, mais la philosophie a aussi des pouvoirs beaucoup plus limités que ce qu'on imagine habituellement, c'est-à-dire que c'est pas quand t'as trouvé une nouvelle manière de formuler une situation ou de formuler un problème que tu as résolu le problème ou que tu as changé quoi que ce soit à l'ordre des choses. Et ça, c'est effectivement une illusion qui est très très fréquente en philosophie, c'est l'idée qu'à partir du moment où t'as pensé la situation différemment, tu as changé la situation. Et Bouvresse ne croit absolument pas à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il pense qu'au mieux, la philosophie peut arriver à clarifier certaines manières de dire, certaines manières de décrire, certaines manières de formuler des questions, que c'est pas rien, mais que c'est ni moins ni plus que cela. C'est-à-dire que c'est pas un pouvoir direct sur les choses. Et en fait, il a passé son temps justement à se méfier et à dénoncer ceux qui, en réalité, sous couvert de philosophie, cherchaient finalement à occuper une position de pouvoir sur les choses et sur les gens, en réalité. Et à camoufler des arguments d'autorité, là où en fait le travail, le véritable travail philosophique, consiste d'après lui plutôt à analyser les choses, c'est-à-dire voilà, à préciser le sens des situations et à éviter au maximum les confusions, les ambiguïtés, les analogies qui masquent des arguments d'autorité ou des positions de pouvoir en quelque sorte.
Donc et c'est son héritage Wittgensteinien. Bon, c'est name dropping, désolé, c'est Wittgenstein, donc un grand philosophe autrichien qui est devenu anglophone par nécessité à cause de la intellectuelle et historique, enfin tout un tas de raisons.
Il était juif, donc il fuit l'Autriche au moment de l'arrivée des nazis. Il part en Angleterre et ça va être un des philosophes les plus influents du XXe siècle.
Et Jacques Bouvresse l'a introduit en France et a transféré aussi dans sa méthode de travail philosophique, cette analyse, très sobre, justement, de l'usage du langage en philosophie et de la façon qu'ont les philosophes, comme tu disais, parfois, de faire paraître les problèmes philosophiques plus importants qu'ils ne sont en réalité.
Et il y a l'idée, alors parfois ils peuvent être importants, hein, c'est important, mais l'idée c'est qu'en fait le philosophe n'est pas un révolutionnaire, tu fais pas la révolution en faisant de la philosophie, tu ne modifies pas le monde en faisant de la philosophie, là pour le coup il est du côté, on interprète le monde, les limites de la philosophie sont dans l'interprétation du monde, pas dans la transformation, hein. L'idée c'est aussi que la philosophie n'a pas non plus vocation donc à créer, à faire de l'art, à se substituer à de l'art, et elle n'a pas non plus vocation forcément à faire des théories. Alors ça c'est pareil,
c'est pas
un
non plus une science.
Wittgenstein, exactement, c'est pas une science, donc elle t'apporte pas, elle est pas forcément à même de créer des nouvelles connaissances, ce qui veut pas dire qu'elle est rien, mais c'est bon, alors c'est effectivement la tradition qu'on trouve chez quelqu'un comme Wittgenstein qui invente pas cette idée-là, hein, ça existe déjà sous l'Antiquité, mais l'idée que la philosophie était essentiellement une thérapie, et en l'occurrence c'est Jacques Bouvresse, c'était l'idée que c'était une thérapie du langage, une thérapie de nos manières de parler et une thérapie qui avait vocation à dénouer les confusions qui était lié, c'est une expression qu'il avait souvent aussi que j'aime assez, c'était l'idée que en fait le philosophe est celui qui essaye de ne pas se faire manœuvrer par les mots et de pas se faire manœuvrer par le langage, par des formes, par des manières d'exprimer les choses, par des manières de les dire, et qui en fait t'embarque finalement à tirer des conclusions erronées. Parce qu'effectivement, sur une confusion ou sur un tic de raisonnement ou sur une forme de langage ou sur une manière d'exclure en fait une nuance ou une
fascination d'une image,
la fascination d'une image, exactement. Comment ça, effectivement, comment tu peux facilement te faire embarquer finalement par les mots et par le langage lui-même? Et d'une certaine manière, le philosophe est celui qui a une espèce de méfiance professionnelle et qui cherche à prévenir aussi de ces risques-là. Alors évidemment, c'est pas pas très héroïque, c'est pas très funky, et c'est pas très valorisable sur un plateau de télé ou face à un éditorialiste radio ou télévisé.
Je tiens à faire remarquer que Jean-Mathias a utilisé le mot funky.
Funky. Bah, ça vient de l'anglais, hein. c'est un terme anglais, je crois, au départ.
Oui, non, mais bon.
C'est donc, il y a ce côté-là. Mais donc, évidemment, c'est pas très héroïque, c'est difficile, du coup, à mettre en scène, voilà, dans les médias ou dans la presse. Et ça a été,
surtout si tu le revendiques pas. Parce que, éventuellement, tu pourrais le revendiquer et en faire une espèce de titre de gloire.
C'est ça. Hein.
Mais si tu le pratiques.
Ouais. Et donc ça a été effectivement du coup une constante chez lui de revendiquer une espèce de posture professionnelle.
Voilà. Mais ça revient aussi un petit peu à ce que je disais au départ, c'est-à-dire que les livres de Jacques Pouvresse, par rapport à la tradition philosophique française récente, sont des livres décevants, à dessein. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont à des tas de niveaux sceptiques. Vous n'aurez pas de conclusion, vous n'aurez pas des mots d'ordre, comment dire, des phrases qui claquent et qui, en quelque sorte, figent votre idée d'une chose. Vous aurez des phrases souvent à rallonge, pleines d'incises, pleines de doutes, et il va en fait vous mener d'un point à un autre et passer à un autre point. Et de ce point de vue-là, alors ça peut sembler négatif comme description, dans mon esprit c'est plutôt positif en réalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui examine un problème, qui va aussi loin qu'il pense pouvoir aller dans l'analyse de ce problème et qui ensuite passe à un autre problème sans forcément avoir la prétention de résoudre le premier.
Oui, et après tu as aussi l'idée, ce qu'il faut le dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est très lisible.
Oui.
C'est quelqu'un qui triche jamais avec de l'esbroufe, avec des métaphores ou avec un langage ésotérique ou en utilisant les mots, en abusant de la polysémie des mots. C'est quelqu'un qui voulait se faire comprendre. Oui. C'est quelqu'un qui pensait que la philosophie n'avait pas à pratiquer un type de raisonnement ou un type d'usage de la langue particulier. Et c'est quelqu'un de particulier qui a une érudition qui était assez vertigineuse. Donc en fait, c'est-à-dire que ça, c'est aussi, c'est-à-dire qu'on risque, vous risquez d'apprendre des tas de choses. Ça c'est une certitude en termes voilà d'érudition, d'auteur, d'analyse. Et c'est aussi quelqu'un qui passait son temps, juste précisément, à essayer d'éviter dans la mesure du possible, mais c'est son obsession justement, les facilités en réalité, les facilités de réduction, de caricature, de polarisation aussi d'un débat. Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que c'est décevant. Moi, je trouve que c'est...
Ah non, c'était décevant, c'était une espèce de... C'était une...
Ah oui, décevant si on attend effectivement des mots d'ordre.
Si on attend un gourou qui nous dit quoi penser, comment le penser, et pourquoi ça va tout changer.
Ah oui.
Il est totalement décevant. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un...
Si vous cherchez une autorité intellectuelle, passez votre chemin.
Voilà.
Par contre, si vous cherchez à apprendre des choses et si vous cherchez effectivement à avoir les éléments pour clarifier une question, clarifier un problème et avoir les références qui vous permettront de le creuser et de le préciser par vos propres moyens, alors allez lire Jacques Pouvresse. Voilà. Et donc effectivement, c'est pour toutes ces raisons-là que il a cette place un peu à part dans la philosophie française. On l'a toujours fait passer par une espèce de bougon qui était toujours à râler sur le succès d'un tel ou d'un tel, qui était plutôt dans le ressentiment,
la jalousie.
Alors c'est absolument faux. En réalité, c'est quelqu'un qui, au contraire, a mis en difficulté réelle, du point de vue intellectuel et du point de vue du fond, la plupart des philosophes qui ont connu du succès et surtout la plupart des gens qui ont fait leur beurre sur ces philosophes-là, à savoir une bonne partie des éditorialistes, parisiens, et de ceux qui font la pluie et le beau temps dans le monde des idées. Et donc ça, effectivement, c'est des gens pour qui ils n'avaient absolument aucune forme d'estime ni même de respect minimum. Et personne ils lui ont jamais pardonné, ça c'est certain. Donc effectivement, c'est un peu le profil du profil à la Diogène un peu, qu'il a dans le paysage français. En même temps, et lui-même le reconnaissait sur cet article-là, sur le pourquoi je suis si peu français. Il y a aussi peut-être un peu une forme de coquetterie quand même dans cette formule-là, parce que ce qu'il y a de français, en fait, c'est notamment l'espèce de culture encyclopédique et en fait la variété des centres d'intérêt qui l'ont utilisé. C'est-à-dire que c'est pas un philosophe, c'est un philosophe qui s'est spécialisé sur beaucoup de sujets, mais qui a toujours abordé la philosophie en généraliste. C'est-à-dire qu'il perd jamais de vue la question des enjeux conceptuels généraux, en fait, de ce qu'il traite. Qui a pas peur, effectivement, d'aller, effectivement, dans la technique, hein. Mais c'est pas des traditions qu'on trouve beaucoup maintenant dans les philosophies anglo-saxonnes ou dans les philosophies dites analytiques qui se spécialisent, qui se planquent parfois aussi beaucoup dans la technique, de l'argumentation, de la définition, etc. Jusqu'à perdre, en fait, un peu à faire perdre au lecteur le sens un peu des enjeux généraux. Ça n'a jamais été son cas. Ça n'a jamais été son cas. Et en ce sens-là, il est plus français que ce qu'il veut bien admettre.
Oui, c'est pas un philosophe analytique anglo-saxon.
Non,
vraiment pas.
Voilà.
C'est pour ça que je le comparais plutôt à Montaigne, en réalité.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Autre chose.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va peut-être faire une première pause, du coup, avant de passer justement à ces amours viennoises et germanistes, on dira. Et donc avec un petit blues for Karl Kraus.
Bonsoir, c'est Jeudi Noir qui reprend. Donc Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. On l'avait pas dit.
Non.
On on perd les bonnes habitudes avec tous ces confinements et ces autres choses. Voilà, donc là vous venez d'entendre un blues for Karl Kraus. Karl Kraus, c'était un journaliste autrichien la première moitié du XXe siècle, qui a été beaucoup lu et beaucoup commenté par Jacques Bouvresse, philosophe français mort il y a un mois, qui fait l'objet de cette émission. Et Karl Kraus a été un critique absolument féroce de la presse de masse naissante en Autriche et à Vienne en particulier au début du XXe siècle. Il est mort dans les années 30 alors que l'Autriche succombait au fascisme, et lui était c'était un juif converti au christianisme qui avait à peu près tapé sur tout le monde. Bon, il était vieux au moment de... Mais il avait écrit un truc préfacé par Bouvresse. Si jamais vous avez le temps de lire ça, je vous le recommande. C'est La Troisième Nuit Valpurgis. C'est édité chez Agone en 2005, je crois, dans ces eaux-là. Préfacé par Jacques Bouvresse. Vous avez une grosse préface de 100 pages. Et c'est dans La Troisième Nuit Valpurgis, un livre qui n'a pas été publié du vivant de Kraus. Une dénonciation... prophétique, prophétique, je pense que le terme s'impose, du nazisme à venir, ou en 33...
Dans la corruption du langage, et de la manière dont il est décrit, et surtout pas décrit.
C'est ça.
Dans la presse et dans la...
Et dans le rapport, le rapport du langage à l'action, aussi, Et donc voilà, c'était une des références majeures de Jacques Bouvresse, Karl Kraus.
Et une des raisons d'ailleurs de sa franche inimitié avec la quasi-totalité de la presse française, parisienne en particulier, et tout particulièrement littéraire.
et Le Monde, particulièrement. Savigno. Alors, il y a des gens comme ça, quoi. Mais bon... Voilà, donc là, on voulait vous parler du côté, alors, Jacques Bouvresse a souvent été présenté comme un philosophe analytique, une espèce de cheval de Troie de la philosophie anglo-saxonne. Et comme on est très très nationaliste en philosophie en France, évidemment, ce qui vient de l'étranger, c'est mal, assez souvent. Sauf quand ça vient d'Allemagne et quand c'est idéaliste. Mais, ou quand c'est nazi, comme Heidegger. Mais, ça c'était le passage Baudouin. Vous avez ici autre chose peut-être, c'est que c'est que vous avez aussi d'autres références qui viennent de l'Est, d'autres références germaniques, et en fait c'est celles essentiellement qui ont été travaillées par Jacques Bouvresse. Ouais. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie, non pas à lire des textes anglais, mais qu'il en ait lu beaucoup, mais surtout des textes allemands.
Oui, texte anglais, ça, on va en parler plutôt à la fin de l'émission, sur des gens, des auteurs comme Russell ou comme Orwell. Mais effectivement, c'est avant tout une culture de germaniste qui va introduire. Et c'est le paradoxe. Parce que comme tu disais, effectivement, en France, on adore, la philosophie allemande. Mais en fait, ce qu'on adore surtout, c'est la philosophie allemande quand elle est irrationaliste, quand elle est idéaliste. Donc effectivement, et quand elle justifie finalement, d'une manière ou d'une autre, des formes d'apologie, je dirais, de la force et de l'autorité, en fait, pour résumer les choses. Que ce soit l'autorité de l'État, du point de vue des lectures des lectures d'Hegel, que ce soit des apologies de la force dans les lectures de Nietzsche, l'apologie de l'irrationnel chez Heidegger, ou du combinaison des trois, mais ça on aime bien, effectivement, on aime bien ces aspects-là. Et en fait, dans le corpus et dans la bibliographie que Jacques Bouvresse va introduire en France, et qui va contribuer à introduire, donc on a cité Wittgenstein tout à l'heure, mais il y a aussi un auteur qui est d'abord un romancier, et ça c'était quelque chose, une constante dans l'œuvre de Jacques Bouvresse, c'est qu'il a été toujours aussi passionné de littérature et de littérature philosophique, et il pensait qu'on pouvait faire de l'excellente philosophie avec de la littérature, même si la philosophie n'était pas de la littérature, on ne pouvait pas s'y réduire. Et l'auteur, une d'un de ses auteurs fétiches, peut-être celui dont il est le plus proche, c'est Robert Musil, qui est un romancier essayiste absolument extraordinaire, viennois, dont qui a écrit avant la Première Guerre mondiale, mais surtout dans l'entre-deux-guerres, avec un des plus grands romans du XXe siècle, L'homme sans qualité, et aussi des centaines et des centaines de pages d'essais sur des sujets extrêmement divers, mais d'actualité, de politique,
théâtre,
de théâtre, c'est une œuvre absolument extrêmement tentaculaire et puis fascinante. Et donc ça, c'est effectivement un de ses auteurs de référence. Et parmi ce qui l'intéresse aussi chez Musil, c'est les adversaires de Musil. C'est-à-dire, tu as parlé de Krauss, effectivement, des adversaires de Krauss, c'est-à-dire la presse libérale corrompue de Vienne, qui est en train de se mettre en place et de se roder à des échelles donc qui sont devenues aujourd'hui industrielles. Hein. Mais ce qui l'intéresse aussi, c'est les adversaires, ceux avec qui va batailler Musil, et notamment des courants qui, finalement, ça, je trouve ça très éclairant, c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi, des auteurs qui, finalement, autour de la Première Guerre mondiale, souvent dans l'entre-deux-guerres, en gros c'est une période qui est quand même extrêmement riche de ce point de vue-là, des auteurs qui préfigurent finalement toute, alors la montée du nazisme, hein, du côté voilà, mais finalement qui définissent une espèce de corpus de concepts, de méthodes, de manières de faire, un style, je dirais aussi, un style d'écriture, un style de pensée, qu'on retrouve finalement encore très bien aujourd'hui. C'est notamment le cas de quelqu'un comme Spengler. Alors Spengler est relativement peu lu, peu connu, peu discuté en France, mais c'est un auteur alors qui est connu pour être un auteur profondément réactionnaire, fascisant, avec des sympathies nazies au moins au début. C'est une des figures de ce qu'on a appelé en Allemagne la révolution conservatrice. Et la révolution conservatrice, en fait, elle a, c'est elle qui va mettre à bas la République de Weimar. Hein, c'était une République un peu fragile, contestable aussi par plein d'aspects, hein, mais qui se met en place après la Première Guerre mondiale et qui ont fait après la chute de l'Empire allemand, prussien. Et la République de Weimar, elle va être abattue alors par des nazis en chemise brune, en uniforme et qui sont des brutes physiques, mais surtout par tout un travail de sape beaucoup plus séduisant, beaucoup plus érudit, beaucoup plus smart du point de ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Où vous trouvez des gens aussi prestigieux que Junger, par exemple, ou des gens...
Heidegger
lui-même, Heidegger est, même, est quand même plus nazifiant que des gens comme Spengler ou Junger, qui sont en fait, eux, des réacs profonds, quoi, hein, des réacs profonds, et des critiques, du coup, du progrès, de toute forme de progrès, des critiques de la modernité, des critiques de la démocratie, des critiques du progrès de la science, des critiques de la raison, évidemment. Alors tout ce qui se rapporte, si vous voulez, à la modernité, voilà,
la vie urbaine,
la vie urbaine, mais aussi du coup dans en matière politique, c'est la Révolution française, c'est les droits, c'est les Lumières au fond. Hein. Ce sont des gens qui se positionnent comme des adversaires forcenés des Lumières, et tous les mots effectivement de l'humanité qui sont liés à la modernité viennent de ça, de la philosophie des Lumières, de l'ambition d'expliquer, voilà, d'analyser, de décrire
et d'émanciper.
D'émanciper
les individus en expliquant
des traditions. Des traditions. Et donc, évidemment, ce sont des ultra-traditionalistes qui prônent donc un retour aux traditions. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est du côté des traditions religieuses, mais pas seulement, hein, qu'il se trouve le salut de nos âmes contre le développement de nos esprits, de la culture. Alors, il y a un vieux couple dans les débats allemands, l'opposition entre la culture et la civilisation. La civilisation est une espèce de dégénérescence rationnelle de la culture. La culture, c'est l'expression de la vie, l'expression de la vie sociale et individuelle, du génie, de l'art, de la religion. Et puis petit à petit, vous avez la modernité qui va faire dégénérer ça de manière trop rationnelle, trop technicienne, trop plate, et qui d'une certaine manière va enlever l'élément vivant, l'élément sublime en fait, le sens du sacrifice, le sens du devoir, le sens du dépassement, le respect des dieux, de l'autorité, etc., etc. Et évidemment, c'est une catastrophe pour tous ces auteurs-là. Et une des plumes qui a porté ça au plus haut point, c'est justement Spengler. Et Spengler a eu un succès qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et apparemment, c'est une espèce de fresque comme ça qu'il publie après la Première Guerre mondiale.
C'est un livre qui est assez facile à trouver.
Le déclin de l'Occident.
Le déclin de l'Occident, c'est en deux volumes.
Ouais. Et qui est une espèce comme ça de fresque générale sur l'idée que, au fond, toutes les civilisations atteignent à un certain moment un point d'apogée puis un point de déclin.
C'est une vision cyclique de l'histoire,
c'est ça, hein.
Avec des cycles apogée, décadence, destruction et remplacement par une autre culture vivante.
Culture vivante qui elle-même va dégénérer ensuite en civilisation trop rationnelle, qui va se vider de son sens du dépassement, du sacrifice, etc. Et en fait, on en est là, d'après Spengler, du point de vue de l'Occident. Et il y a donc évidemment, plutôt que, du coup, il a cette particularité, lui, les conclusions qu'il en tire, c'est qu'en fait, il se présente jamais comme un réactionnaire, mais au fond, les réactionnaires se présentent assez rarement comme des réactionnaires. Hein. Ils ont tendance à vouloir dire qu'il faut, en fait, au contraire, dépasser la situation actuelle. C'est pas très vendeur de dire qu'il faut faire remonter la pente au fleuve, hein, ou retransformer l'omelette en œuf. Ça, on sait que c'est difficile, mais donc il s'agit... Et lui, sa position, ça consiste à dire qu'il faut l'achever, en fait, cette situation-là. Il faut être encore, finalement, plus dur que ce que que la dureté moderne et qu'il faut en fait retrouver des instincts primitifs de destruction, de sauvagerie, de violence pour en quelque sorte régénérer cette civilisation qui de toute façon est morte. Alors évidemment, on voit là, et c'est ce que va dire quelqu'un comme Mouzil en face, ben, on voit évidemment comment ce type d'approche prépare le terrain à la brutalité nazie, voilà, qui elle va passer aux actes.
Hein. Et repose sur des méthodes intellectuelles lamentables.
Absolument. Et merci. Alors l'idée, alors en même temps, il y a chez Spengler, et c'est ça qui a intéressé Bouvresse. Alors là, l'article auquel on fait référence avec Michel, c'est un article qui date de 83. Donc vous voyez, c'est là pour le coup, il y a quelque chose d'assez visionnaire dans l'approche de Bouvresse, qui s'appelle La Vengeance de Spengler justement. Et alors, il faudra qu'on donne un peu l'idée de, un peu le sens de ce titre-là, parce que il résonne un peu bizarre, différemment aujourd'hui. Spengler est quelqu'un qui donc défend l'idée qu'au fond, il n'y a pas de vérité, figée une fois pour toutes. En fait, chaque époque a sa vérité. C'est donc un relativiste. Il pense qu'effectivement, il n'y a pas non plus de sens de l'histoire, qu'à chaque période, en fait, chaque période est close sur elle-même et en fait, d'une certaine manière, incomparable avec une autre. Il n'y a pas de progrès, d'une certaine manière. Et à chaque civilisation est close sur elle-même avec sa vision du monde, avec ses conceptions scientifiques. Donc, c'est quelqu'un qui est relativiste aussi en ce sens-là, qui est historiciste en ce sens-là. On ne peut pas juger une période au nom d'un sens de l'histoire ou du progrès ou de la nature humaine ou de valeurs éternelles ou universelles. Ça n'existe pas. Et en fait, ce sont des traits des manières de penser l'histoire, de refuser plutôt l'histoire, hein, en y voyant une espèce de cycle dans lequel chaque période est close sur elle-même et ne peut pas être critiquée. En fait, existe toujours aujourd'hui, y compris dans ce qu'on appelle la nouvelle droite aujourd'hui. Mais en fait, la nouvelle droite n'a absolument rien de nouveau. Elle recycle ses manières de penser, ses manières de décrire les phénomènes. Choc de civilisation, voilà, le roman national, voilà, la vérité historique, ben au fond c'est quelque chose qui importe peu, voilà, l'héritage de la colonisation en France, l'héritage de l'esclavage, voilà, tout ça, le racisme systémique, tout cela sont des choses qui n'ont pas d'objet, puisqu'en fait ce dont on a besoin, c'est au contraire de régénérer, voilà, la mémoire nationale par du récit, par la littérature, sans se préoccuper de la raison, sans se préoccuper de la vérité, sans se préoccuper d'un sens de l'histoire et d'erreurs qu'on pourrait éventuellement se permettre de ne pas reproduire. Voilà. Et en fait, au fond, les enjeux sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les options conceptuelles sont les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient déjà à l'époque de Spengler. Et Spengler le fait alors avec un certain brio, un énorme succès à l'époque. Et Bouvresse pointe ça par justement les lectures et les critiques qui en ont été faites à l'époque, par des gens tout à fait conscients de cela. Hein, parce qu'on présente toujours effectivement le nazisme comme une espèce de marée inexorable qui a des causes économiques, la misère, la crise, etc. C'est vrai, bien sûr. Mais ce qui intéresse, et Bouvresse le rappelle en permanence, et les auteurs sur lesquels il s'appuie rappelaient ça en permanence, il y a aussi eu tout un travail préparatoire, intellectuel, pour saper, au fond, les idées de démocratie, d'attachement à la vérité objective, de raisonnement, de mise en perspective historique, de recherche de la vérité historique, de respect des faits. Tout ça, toutes ces notions qui sont liées finalement à la modernité, au respect de la vérité, aux lumières, hein, aux valeurs des lumières, ont été piétinées, débranchées, méprisées, bafouées allègrement pendant des années. Et ceux qui se sont empressés de le faire, ce sont ceux qui, en principe, dont on attendait qu'ils les aient défendus. C'est-à-dire des philosophes, mais aussi des romanciers, des poètes, des intellectuels. Et il y a toute une préparation, effectivement, à la brutalité nazie pure, je dirais, qui a été faite sur le terrain des idées, sur le terrain de la philosophie. Et Spengler est absolument emblématique de ça. Et aussi, ce qu'on oublie, et je trouve que c'est un des mérites de Bouvresse, c'est de rappeler qu'il y a des gens qui se sont opposés à ça. Qui se sont opposés à ça et dont on parle à peu près jamais en France, qui sont des gens qui justement, bah du coup, ont dû pour la plupart fuir l'Allemagne ou l'Autriche où ils résidaient, se sont effectivement établis en Angleterre ou aux États-Unis et effectivement ont contribué à créer un courant de philosophie qu'on a appelé plus tard la philosophie analytique. Mais ces gens-là viennent du continent européen, oui. Et ils ont représenté même au plus haut des idéaux qui étaient des idéaux, les Lumières européennes. Oui. Ils l'ont représenté à Berlin, à Vienne, et en fait, c'est précisément des auteurs dont on ne parle jamais dans l'histoire de la philosophie française, dont il est très peu question dans les programmes de philosophie. Alors, Mouzil est un romancier, mais oui. On peut parler...
Maurice Schlick.
Bien sûr, Schlick, tous les gens...
Schlick, c'était un des fondateurs du cercle qu'on appelait le cercle de Vienne, un cercle positiviste, le positivisme logique. Mmh. Et Schlick est assassiné dans son université par un étudiant nazi. Schlick était juif, c'était un représentant d'un courant rationaliste de pensée qui voulait articuler en quelque sorte comment dire, une pensée progressiste dans la découverte de la vérité et des sciences, mais aussi un projet politique. C'est-à-dire que c'était aussi des communistes. Et assez étonnamment, mais je crois que je l'ai déjà dit sur cette antenne...
Ou des socialistes. Ou des sociodémocrates.
Mais sociodémocrates radicaux, oui. Rien à voir à l'ancienne. Ouais. Mais comme je l'ai souvent déjà dit sur cette antenne, dans la postérité, dans la philosophie française, a davantage reconnu les mystiques nazis que les logiciens communistes. Y compris d'ailleurs à l'extrême gauche, ce qui est assez surprenant, mais bon, ça peut-être qu'un jour on y consacrera une émission, si on l'a pas déjà fait d'ailleurs. Mais, Et donc, Schlick, par exemple, Schlick lui est assassiné, mais ça va entraîner l'exil de pas mal de philosophes du même courant, dont un des plus grands s'appelle Rudolf Carnap. Et Carnap qui est parti aux États-Unis. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu souvent l'idée que Bouvresse introduisait la philosophie anglo-saxonne en France, parce que il ne faisait que en fait lire des Allemands qui avaient fui les nazis.
Et donc c'est quelque chose qu'on, et alors pour le coup il y a tout un tas de livres édités chez Agon qui a fait un travail remarquable pendant des années, hein, d'essais où justement vous trouverez tout un tas de textes de Bouvresse là-dessus, notamment sur les positivistes, les lumières. Il y a un recueil qui s'appelle Les Lumières des positivistes,
c'est les essais, hein. Oui, c'est ça, voilà. C'est les essais numéro 6.
Hein, donc un recueil d'articles de Bouvresse là-dessus, et c'est des gens vraiment qui, enfin des auteurs qu'il faut absolument fréquenter et découvrir, parce que si il est un des rares effectivement à en avoir fait la promotion en langue française. Et pour ce qui est du retour à Spengler, donc en fait des gens comme Spengler ou Heidegger ont eu en fait des opposants courageux, acharnés, et effectivement on a des leçons à en tirer, parce que sur des périodes comme des leçons proprement historiques, je dirais, c'est-à-dire que la manière dont effectivement une politique barbare, brutale, indigne comme le nazisme ou le fascisme en Italie, la manière dont ça se met en place, on a tendance effectivement à minimiser en fait la préparation idéologique, hein, de ça. Et du côté de Spengler, on a par exemple des apologies du césarisme, alors qui sonnent un peu bizarrement, hein, parce que donc effectivement politiquement, donc c'est quelqu'un effectivement favorable à l'autorité, etc. Mais le césarisme est l'avenir effectivement de la décadence de l'Occident. Il faut absolument accélérer ce tournant là, hein, d'après, et donc c'est un admirateur de Mussolini, Spengler, etc. Et en même temps, le césarisme, ben, il a des rapports assez troublants avec le populisme contemporain, ou ce qu'on appelle parfois d'ailleurs à tort le populisme contemporain. Et je trouve que tu as une remise en perspective historique de ça qui est assez éclairante. Alors, la difficulté, et après on va faire une petite pause là-dessus, c'est qu'en fait, à l'époque où en fait Bouvresse rédige ce texte-là, en fait, ce qu'il a en vue, c'est pas tellement... Malheureusement, on peut dire, parce que c'est pas tellement la montée d'une nouvelle droite violente et autoritaire, antidémocratique comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui. En fait, ce qu'il reproche en fait à l'époque, c'est aux philosophes qui se présentent comme des philosophes de gauche, et si possible de gauche radicale, finalement d'adopter des attitudes qui sont celles de Spengler.
Là, ou de partager des fondements philosophiques, exactement, communs, sans en tirer les mêmes conclusions.
Exactement.
Et ce qui gêne Jacques Bouvresse là-dedans, c'est que il se dit en quelque sorte le rapport entre les principes et les conséquences ici est trouble.
Exactement.
Qu'est-ce qui empêche finalement des philosophes qui se disent d'extrême gauche, alors qu'ils partagent la même critique radicale des Lumières,
de la raison, de la vérité,
de tirer les mêmes conclusions que Spengler. Ouais. Donc il ne va jamais dire qu'ils sont comme Spengler, ou qu'ils défendent la même chose, ou que ce sont des gens de droite, d'extrême droite et autres. Mais malgré tout, ils ont les mêmes ennemis. Donc ici, ça pose quand même question. Et ça, je trouve que c'est... Pour ça, l'article est assez modéré, entre guillemets. Ouais. C'est un article qu'il a écrit à une même époque, qu'il écrivait Rationalité et cynisme, le philosophe sur les autophages. C'est une période de sa vie où il était un petit peu en mode polémiste, disons.
Ouais. Mais je trouve que voilà, enfin, en tout cas, ça fait partie effectivement des leçons et des intérêts de ça, de relire des controverses dans leur contexte historique, et d'avoir le mérite de remettre en lumière effectivement des oppositions réelles, hein, et des traditions de pensée de résistance, hein, notamment au nazisme ou aux politiques totalitaires qui sont la plupart du temps mises de côté. Hein. On fait une deuxième pause là-dessus. Alors du coup, on y va sur un morceau qui est intitulé sobrement Le Cercle de Vienne. Mmh. Bonsoir à tous, dernière partie de Jeudi Noir sur Radio Libertaire, la radio sans ni maître ni publicité, sous la forme d'une émission, donc Jeudi Noir qui aujourd'hui à la forme d'une émission un peu hommage à Jacques Bouvresse qui est mort il y a maintenant près d'un mois et qui voilà qui a beaucoup compté pour Michel et moi et pour pas mal de choses qu'on a développées dans cette émission depuis des années. Donc on tenait effectivement à faire un peu ça, même si c'est pas notre spécialité, les hommages, mais là on est dans la dans le quasi devoir de le faire. Donc on vous a parlé dans une première partie de l'émission en fait de son positionnement, de sa situation particulière finalement dans le paysage philosophique français depuis la fin des années 70, hein, puisque c'est quelqu'un qui a eu une carrière très longue. Hein. On a parlé de la deuxième partie de l'émission en fait de son tropisme germaniste et autrichien qui l'a amené à introduire en France des auteurs tout à fait ignorés jusqu'à ce qu'il lui en parle comme des auteurs comme Mouzil ou comme le cercle de Wim Carnap, comme Krauss également, et la manière de, et l'intérêt historique qu'il y avait en fait à relire cette tradition-là, à la fois polémiste, rationaliste, héritière des Lumières, assumée et anti-nazie. Contrairement à la plupart des auteurs qui ont connu un succès en France des auteurs de langue allemande. Et on voudrait peut-être terminer du coup maintenant, bien qu'on l'ait précisé hein, dans le reste de l'émission, après c'est pas un défaut en soi, mais on a dit à plusieurs reprises que Bouvresse avait été catalogué souvent de manière très réductrice à la philosophie analytique anglo-saxonne, qui est un courant philosophique très assez technicien, qui insiste beaucoup sur l'analyse logique du langage, qui a tendance à éviter toute forme d'essais littéraires, hein, qui s'opposent à une philosophie littéraire, qui oppose une philosophie beaucoup plus professionnelle, rigoureuse, technique, logicienne,
et très peu populaire,
très spécialisée aussi,
très peu accessible,
parfois peu accessible, il faut dire pas toujours, mais effectivement parfois peu accessible. Et effectivement, Bouvresse avait des sympathies pour ce courant-là, qu'il a contribué à introduire en France parce qu'il trouvait que c'était rigoureux et qu'on avait affaire à des arguments qui avaient le mérite de pouvoir être discutés, contrairement à une métaphore, à une image, à une comparaison, une analogie, dans laquelle on peut planquer à peu près tout ce qu'on veut, et ce qui permet d'esquiver toute forme d'objection et toute forme de... et qui permet du coup de cultiver des positions de pouvoir et des arguments d'autorité de manière beaucoup plus confortable. Ben, la philosophie analytique ne permet pas ça, parce qu'au moins elle a le mérite de reposer sur des arguments.
Oui, elle permet d'une autre manière, mais...
Elle s'expose à l'argumentation, elle s'expose à l'objection, voilà, ce qui est en fait la base de la, méthode... rationnel et des règles du jeu, je dirais, de la philosophie rationaliste. En même temps, donc c'est effectivement, il est pas du tout réductible à ça, puisqu'on l'a dit, en fait, les auteurs qui l'ont influencé sont plutôt effectivement germanistes, hein, en réalité. Il y a aussi des Français au passage, mais ça, il faudrait tellement d'émissions pour en parler, mais des gens comme Valéry, par exemple, ont beaucoup compté pour lui. Et puis des rationalistes français comme Cavaillès, et puis bon, mais ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il a aussi quand même des chouchous anglo-saxons, il faut le dire, et en fait, on voulait quand même terminer l'émission là-dessus, sur deux auteurs notamment à laquelle il a consacré pas mal de temps, notamment ces 10 dernières années, qui sont Russell, le grand philosophe logicien et philosophe et militant anglais.
Dont on vous a très très souvent parlé.
On vous a souvent parlé sur cette antenne-là et dans cette émission, et George Orwell.
Dont on vous a souvent parlé aussi.
L'auteur de 84, mais aussi de La ferme des animaux, mais aussi de toute d'une série à la fois d'articles, de romans, d'essais. Donc il y a une œuvre aussi considérable et sur laquelle Bouvresse a pas mal travaillé ces 10 dernières années. Alors là, pourquoi on voulait en finir un peu là-dessus ? Parce que ce sont des auteurs qui sont susceptibles de nourrir une réflexion libertaire. Voilà, les deux. Parce qu'il y a une critique effectivement de l'autoritarisme intellectuel, je dirais, de l'intellectualisme autoritaire plutôt. Voilà,
chez les deux.
Et une apologie en fait de la méthode scientifique en philosophie chez Russell, ça c'est une formule de Russell, et d'un attachement aux faits et à la rationalité ordinaire chez Orwell, avec chez ce dernier en fait un souci tout particulier de la manière dont ça peut servir et dont c'est peut-être les seules armes efficaces dont nous disposons contre le totalitarisme.
Ou les différentes formes de pouvoir.
Qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, puisque Orwell a malheureusement aussi payé pour avoir participé à la révolution espagnole et il a failli de peu être exécuté par les staliniens. Et c'est quelqu'un qui a compris très tôt, en fait, quels étaient aussi les mécanismes de pouvoir et d'annihilation de toute forme de liberté individuelle du côté de la tradition stalinienne et marxiste, au sens large. Marxisme que Russell, pour sa part, lui considérait plutôt comme une forme de religion laïque, plutôt hein, qu'un courant politique, dans la mesure où, ben, précisément, il avait le sentiment que c'était des positions qui se présentaient comme des théories, mais soustraites, finalement, à l'épreuve des faits. Et à la réfutation factuelle.
On a fait une émission là-dessus sur théorie et pratique du bolchevisme, un livre de Russell publié en 23-24, voilà. Je crois, où Russell revient d'un voyage en URSS et montre que il a compris énormément de choses avant beaucoup de gens, ouais. Et en particulier que justement le communisme, tel qu'il se présente en URSS, est plus proche d'une espèce de platonisme, c'est-à-dire philosophe Platon qui finalement va penser qu'il y a des idées qui sont au-dessus du monde et que
et
au-dessus des vies humaines
et qui effectivement qui subordonne en fait les faits, l'expérience réelle, ordinaire et concrète des individus à des concepts et des enchaînements de concepts avec les meurtres qui vont derrière, hein, pour le dire vite. Alors après, l'intérêt des auteurs comme Russell et Orwell, c'est que c'est pas simplement des auteurs, je dirais, réactifs ou des critiques de salon, hein, du totalitarisme. C'est-à-dire qu'ils ont eu un engagement politique tout à fait concret et réel. Bah, pour Orwell, voilà, il y a l'engagement en Catalogne, hein. Je veux dire, il s'engage en Catalogne, il part là-bas, il est sur le front, il participe, voilà, au combat, il risque sa vie. Donc,
il manque d'être tué.
Il
prend une balle dans la gorge.
Il prend une balle dans la gorge de franquiste et il échappe de peu, effectivement, aux staliniens et à l'exécution
des militants du POUM.
Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un engagement politique tout à fait concret, hein, voilà. Russell, c'est le cas aussi, il a un engagement pacifiste, hein, pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, qu'il mène en prison.
On a fait aussi une émission là-dessus.
Effectivement. C'est aussi donc c'est quelqu'un en fait qui risque ensuite qui a eu des engagements tout à fait explicites en philosophie morale et politique, voilà, critique acharnée de la religion, critique acharnée de tous les systèmes intellectuels autoritaires et justification des formes d'autorité abusive. Le point commun qu'ils ont, et c'est quelque chose qui est ancien dans la tradition libertaire, mais qu'ils portent voilà, un point voilà, tout à fait remarquable, c'est l'attachement aux faits, l'attachement aux faits, l'attachement à l'ordinaire, et surtout une forme l'égalitarisme qui va derrière. L'égalité et la liberté individuelle, elles reposent avant tout sur le respect des faits et de la vérité. Dès qu'on commence à négocier là-dessus, dès qu'on commence à reculer là-dessus, dès qu'on commence à laisser de côté les petits faits qui gênent, voire qu'on remplace les faits par des théories, hein, Fultes les plus généreuses du monde, les plus socialisantes du monde, les plus ce lendemain qui chante du monde, les plus prometteuses du monde, dès qu'on renonce à prendre en compte les faits, l'ordinaire, et c'est le plan sur lequel effectivement chaque être humain a égalité avec les autres, dès qu'on renonce à cela, le risque effectivement de prise du pouvoir, d'emprise, y compris dans ses formes catastrophiques, est là. Et derrière, il y a effectivement ce rationalisme-là, l'idée que la raison est l'instrument ultime effectivement de l'émancipation et que les valeurs qui
je ne sais pas si je dirais ultime.
Ultime, c'est beaucoup dire. Tu as raison.
Mais en tout cas, c'est un instrument fragile, mais c'est à peu près le seul qu'on ait. C'est comme ça que je le dirais.
En tout cas, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. C'est effectivement, c'est ce qui nous met à égalité avec les autres. C'est ce qui nous permet effectivement de traiter des faits. C'est ce qui nous permet de progresser peut-être vers un peu plus de vérité ou vers des degrés de vérité un peu mieux confirmés, même si l'un comme l'autre. En particulier Russell, contrairement à ce qu'on en a dit, et tout sauf un dogmatique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en fait pense que le rôle de la philosophie pour le coup chez Russell, et c'est quelque chose effectivement sur lequel on peut méditer assez longuement, c'est en fait de nous apprendre à vivre avec beaucoup moins de certitude que ce que nous en avons maintenant. Et il le dit tel quel, c'est-à-dire effectivement nous apprendre à douter, non pas pour faire son malin, mais parce qu'en réalité, nous avons beaucoup moins de certitudes que ce que nous croyons. Ça ne veut pas dire que nous savons peu de choses. Nous savons des choses. Mais du point de vue des certitudes, effectivement, en tout cas, là où on aimerait en avoir, le plus souvent, on n'en a pas. Et il faut apprendre à faire avec, effectivement.
C'est dans les domaines où ça nous intéresse le plus, où nous avons moins de certitudes.
Exactement.
Et donc c'est souvent la morale et la politique.
Voilà. Et en apprenant à se débarrasser, effectivement, des points sur lesquels nous croyons être certains, où nous faisons croire en fait que nous sommes certains, alors qu'en fait on ne fait que dire ce que l'on croit ou ce qu'on voudrait qu'il soit. Effectivement, là il y a un travail philosophique et politique direct et immédiat. Et donc effectivement, c'est sans doute la raison pour laquelle ces deux auteurs-là ont pris autant de temps et ont mobilisé autant Bouvresse, y compris à la fin de son œuvre, parce que il y a un fil entre tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a essayé de raconter vraiment à la hache là ce soir. Ce fil, voilà, du respect de la raison ordinaire, cette méfiance à l'égard des théories, des systèmes, des positions d'autorité qui se maquillent derrière des systèmes philosophiques, une espèce de forme d'humilité, une espèce de forme de modestie, de méfiance aussi. Alors ça fait un peu auto-célébration ça, mais ça correspond à quelque chose quand c'est mis en pratique de manière intellectuelle. Et ben en fait voilà, Jacques Bouvresse c'était ça, voilà. Et ben heureusement en fait on peut le retrouver ça en fait dans ses œuvres. Donc on ne peut que vous inviter à aller lire, relire, pratiquer, découvrir, avec en tout cas en vous souhaitant tout le bonheur que nous on y a trouvé, voilà, et qu'on y trouve encore évidemment. On va peut-être s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission
en juillet. Si on est encore là.
Voilà. Bonne fin de soirée à tous.